Bonjour, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit. Cette semaine, dernière édition de 2009, vous êtes en compagnie de Nicolas.
Et Farouco.
Oui, c'est une édition limitée. du collectif. On continue sur notre lancée de la semaine dernière, c'est-à-dire un récapitulatif de la dernière décennie, en fait, des années 2000, parce que bon, c'est de ça dont on nous gave dans tous les médias, et nous, on a décidé de ne pas céder notre place et de
on nous est capable.
Aussi, nous aussi, on est capable. On fait un récapitulatif, essentiellement en regard des événements qui ont été marquants pour la gauche libertaire de la capitale, les mouvements sociaux. Et c'est ça, cette semaine, ça va être 2005-2009.
Oui, nous on va commencer en musique tout de suite.
Oui, la semaine dernière tu avais une édition unilingue et cette semaine aussi, mais
c'est
dans
encore
une autre
unilingue.
Langue.
Ben oui, là c'est dans le correct pour le CRTC. on va y aller en francophone. on va y aller dans le francophone avec le groupe français Ragasonic avec la pièce « À l'ancienne ».
Regarde dans le robot, ce t-shirt, je le rappelle. Regarde les élèves, t'as qu'un exécute, t'as son poil. Reviens de Dieu, on dit, tiens, tu répètes, on fire. Tout son radiateur, on est connecté pour la bataille. We sing, allez, vas-y, bouge-toi, toujours on te sent pas. C'est à des mourir, ben, bing, blend, dedans. Allez, vas-y, bouge-toi, toujours on te sent pas. Alors, bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Voix de Fée sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Alors, c'est notre récapitulatif de la décennie. Alors, pour cette dernière édition de 2009, on revient sur des événements qui ont pu être marquants pour la gauche libertaire et les mouvements sociaux de la capitale nationale. Alors, l'année 2005 se débute en fait sur un important conflit dans la SAQ.
SAQ?
Non,
la SAQ.
La SAQ, c'est
ouais,
ça.
Les boissons. Là.
La boisson, la régie des liqueurs.
Ouais.
Donc, il y avait à ce moment-là une grève générale du syndicat des employés de magasins et de bureaux. Et le 8 février, cette grève générale-là s'est terminée après 3 mois de grève lors d'assemblées générales assez houleuses où au moins un quart des syndicats ont refusé en fait la recommandation de leur exécutif syndical. Donc, c'était un très important conflit à la SAQ. Le premier dans lequel long depuis très longtemps, le premier long aussi impliquant des gens du service public ou en fait d'une société d'État. Les libertaires s'étaient impliqués entre autres parce que le syndicat avait fait de son combat un combat social contre la précarité. On se souvient ou on se souvient pas, mais on va se le faire rappeler que le conflit en tant que tel était essentiellement tourné autour de la question de l'affectation des employés à temps partiel avant la grève. Les employés à temps partiel avaient la possibilité de cumuler des heures dans plusieurs succursales d'une même division et donc de pouvoir aller chercher un nombre d'heures intéressant, et l'employeur lui revendiquait que les employés ne soient affectés qu'à une seule succursale pour développer le sentiment d'appartenance, mais ils ne pouvaient garantir que 15 à 20 heures semaine. Donc le syndicat, à ce moment-là, il y avait un nouvel exécutif syndical, un nouveau président qui prônait un syndicaliste combatif et qui, lui, bon, il venait justement là, de ce secteur-là des employés à temps partiel. C'est quand même la majorité des employés de la SAQ qui sont à temps partiel. Il disait, ben voilà, si on veut réussir à obtenir des semaines qui ont du bon sens, il faut pas faire ça. Mais le syndicat a perdu son combat dans la mesure où la solidarité du public a pas été au rendez-vous. Ils ont effectivement réussi à fermer l'immense majorité des succursales de la SAQ, mais il y en a une quarantaine qui ont resté ouvertes grâce au travail des cadres, en fait, et au bénévolat des membres de la famille de certains cadres.
Ah oui, en beau jaune.
Oui, des beaux jaunes. Et à l'appel des éditorialistes et de tous les chroniqueurs de ce beau pays, les gens, en fait, ont allègrement franchi les lignes de piquetage. Le syndicat comptait sur le fait que la période des fêtes, c'est la période la plus payante pour la société, pour la SAQ. Mais finalement, la direction, ils avaient peut-être sous-estimé à quel point la direction et le gouvernement avaient un intérêt là, marqué à ce qu'ils se pètent les dents.
Eux, il y avait un intérêt de classe.
Oui, il y avait un intérêt vraiment très clair.
Ils sont conscients.
Donc, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une solidarité du public. Il n'y a pas eu de solidarité du public. Et ils n'ont pas été capables d'exiger une solidarité des autres syndicats de la boîte pour une action industrielle qui aurait été décisive. Entre autres, par exemple, des blocages d'entrepôts. Ils n'ont pas voulu s'embarquer là-dedans. Donc, ça a été une défaite pour les syndiqués. C'est important aussi parce que c'est une défaite pour un certain syndicaliste de combat ancienne manière. Syndicaliste qui aurait pu être un tremplin pour l'organisation de précaires, mais qui, bon, de toute évidence, ne l'a pas aidé. Ça l'a pas donné envie à d'autres gens de se syndiquer ou de se battre ou de faire des choses dans ce sens-là. Donc ça, c'est le début de l'année. Ça place un peu les choses en 2005. Par contre, ce qui est le plus important de cette année-là, dans une perspective sociale, c'est pas ça. C'est à partir du 21 février 2005, le début de la grève générale étudiante de 2005. Une grève sur un enjeu de prêts et bourses. Il y avait eu une coupure de 103 millions du gouvernement libéral dans les prêts et bourses. Une coupure qui avait été décidée un an auparavant. Et il y avait eu comme toute une campagne de lobbying et tout pour essayer de faire tomber ça. Ça avait pas marché. Et finalement, bon, donc, il y a une grève générale qui est décrétée. C'est les étudiants en anthropologie de l'Université de Montréal qui sont sortis les premiers là-dessus. Dans la région de Québec, c'est un peu particulier parce que dans un premier temps, les étudiants de cégep de la région refusent la grève majoritairement dans toutes les institutions.
Ça a été à l'envers.
Ouais, ça a été complètement à l'envers de l'habitude depuis que les cégeps existent. En fait, c'est les cégeps qui étaient à l'avant-garde des mouvements de grève, mais là, il y a certains animateurs de radio du matin, qu'on ne nommera pas, qui ont fait des appels en ondes très larges à ce que les cégepiens aillent dans leurs assemblées générales et battent les grèves. Et on a vu des assemblées générales avec 1000, 2000 étudiants dans des cégeps qui ont 4, 5, 6000 étudiants. Et ça n'a pas passé. C'est des records. On voit ça d'habitude à la fin d'une grève, là, des assemblées générales. parle de 2 000-3 000 étudiants. Mais tu sais, pour vous donner une idée, il n'y a pas un amphithéâtre à Québec qui a plus que 750 places. C'est, le plus gros, c'est la salle Albert-Rousseau au cégep de Sainte-Foy. C'est à peu près 800 places. Fait que quand t'as autant de monde que ça, ça veut dire que t'es obligé de faire ça dans 1, 2, 3 gymnases avec des retransmissions, avec des écrans géants. Ça fait pas des assemblées générales nécessairement très, très démocratiques. Mais bon, en tout cas, finalement, c'est à l'Université Laval, en fait, qui embarque. Où ça part de façon assez raide, d'ailleurs, c'est le 10 mars, c'est 650 étudiants des départements de sociologie, d'anthropologie, d'histoire et de théâtre.
Oui, en fait, ça a commencé anthropologie. Ils ont eu une assemblée générale, puis ils sont tombés en grève immédiatement. C'était quasiment une question d'orgueil. Là,
de dire, on va être les premiers.
Oui, parce qu'en histoire, on avait voté en même temps, mais pour le lendemain. Fait qu'ils disaient, ah, nous, on sort avant vous.
12 heures avant vous. Les en tout, il va y avoir quand même 18 000 étudiants de l'Université Laval qui vont faire la grève au moins une journée pendant la période de
nous,
grève.
Ça a été un mois. Quatre semaines.
T'étais en quoi, toi?
Histoire.
T'es en histoire?
Anthropologie, un petit peu plus long. Ils ont étiré à la fin. Puis, en tout cas, il y avait pas grand monde, à part le Doc Henning, là. Il y avait pas grand chose.
Oui. Mais il y a quand même eu, c'est quand même particulier dans la mesure où c'est la première fois l'Université Laval qui avait grève depuis, ma foi, une éternité. Et ce qui est un peu particulier aussi, puis ça a été le cas dans presque toutes les universités, c'est que c'est des grèves qui se sont faites par département et non par campus. Habituellement, normalement, les associations étudiantes représentatives dans les universités, ce sont des associations de premier cycle ou des associations, bon, c'est, mettons, la Fédération des associations étudiantes de l'Université de Montréal, la FECUM, ou la CADEL, la Confédération des associations étudiantes de l'Université Laval. Ce sont, en général, ces institutions là qui mènent les représentations politiques, sauf qu'il n'y a rien qui dit que l'association étudiante de base dans un département ou un ne peut pas faire grève. Et effectivement, elle le peut habituellement, ça fait juste
gérer. Nous, on s'était fait dire que c'était illégal, puis qu'en fait, on était en boycott, en quelque sorte. L'administration a essayé de nous dire ça. Mais nous, on les avait promenés, puis on bloquait les cours pareil.
C'est ça, il y a eu des blocages. Et ça a été vraiment la grève des universités. Là. Il faut remonter aux années 70, en fait, pour trouver autant d'universitaires en grève. On a 185 000 étudiants qui ont participé au mouvement de grève générale limitée. À la fin, il y a eu une entente qui a été concoctée entre la FEC, la FEC et le gouvernement.
La fin de semaine que le pape est mort, en plus. Tout pour étouffer l'affaire. On n'a même pas entendu parler avant le lundi.
Ça, c'est une nouveauté de cette grève-là. Auparavant, la FEC, la FEC négociait des ententes, puis ça finissait là. Cette fois-là, ils ont présenté les ententes devant leurs assemblées générales. Ils faisaient pas ça parce qu'eux, ils se réclamaient pas du syndicalisme étudiant. Ils disaient, nous, on fait pas du syndicalisme, on fait pas la grève. Historiquement, la FEC, la FEC se sont créés contre cette méthode-là, et puis là, ils sont venu avec une méthode de ce type-là. Ce qui est quand même assez particulier, c'est que tu as 110 000 étudiants qui ont voté contre l'entente, tu en as 75 000 qui l'ont accepté, mais comme les 75 000, c'est la majorité des associations membres de la FEC et de la FERC, eux, ils ont arrêté rapidement leurs moyens de pression, et même si la majorité des associations de la CAC, la Coalition pour une association syndicale, de solidarité syndicale étudiante élargie, qui regroupait donc une majorité de grévistes, étaient contre, c'est pas eux qui avaient négocié l'entente, et eux, ils ont continué jusqu'au 14 avril, mais finalement, ça a pas fonctionné. Il y a certaines associations étudiantes qui ont rejeté l'entente, mais qui ont voté de ne pas poursuivre la grève de peur de perdre leur session. Et à la fin, les dirigeants de la CAC ont proposé un repli stratégique, repli dont ils se sont jamais relevés, en fait.
Ben, ils essayent, mais à part à Montréal, là, il n'y a plus grand-chose. À Québec, il s'est créé ce qu'on appelle la troisième voie, là, espèce d'association régionale. Mais c'est ça, un des aspects positifs de cette grève-là, c'est qu'à l'Université Laval, ça a été
la fin de la FERC.
Le coup de départ de la fin de la FERC.
Oui, ben la FERC, depuis, a perdu énormément de gens, dont notamment toutes les... Il n'y a plus rien de la FERC et de la FERC dans la région de Québec.
Non.
Ceci dit, la grève est importante parce que malgré tout, là, je pense qu'on pourrait avoir un débat long là-dessus, mais on le fera pas aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une victoire. Le gouvernement a reculé. C'est sûr que entre-temps, c'est pas une victoire totale. On n'a pas refinancé les trucs, mais ils ont reculé. Ils ont trouvé un moyen de ramener le 103 millions. Symboliquement, c'est relativement important. Et c'est aussi la plus importante grève étudiante de l'histoire du Québec. Mais par la suite, ils n'ont pas été capables, alors que cette fois-là, c'était une coupure qui touchait seulement une minorité d'étudiants. Par la suite, quand il y a eu des hausses de frais de scolarité qui ont touché l'ensemble des étudiants, là, Les gens ont pas, les gens sont pas sortis.
Le fait que la FERC a tout de suite dit oui, puis les gens n'ont pas sorti, parce que ce qui est arrivé à la grève de 2005.
Les gens voyaient une injustice très clairement.
Oui, puis en plus.
Les autres questions, ils voyaient pas d'injustice.
C'est ça. En plus, c'est que la grève, tout le mouvement était lancé avant même que la FEC et la FERC aient réagi. Ils ont eu l'air à être complètement.
Ils étaient dépassés.
Eux autres, ils voulaient pas perdre leur légitimité. Le gouvernement voulait pas que la FEC et la FERC perdent leur légitimité. Fait qu'ils ont comme enjambé. C'est un peu comme si il avait pris un cheval dans la course, puis il avait fait « Oh, on arrête. » C'est tout. Il avait rien fait d'autre.
Ils ont embarqué dans le train en marche.
Ouais, ils ont comme alimenté un peu avec un petit peu de manif. Il y a eu des petites manifs.
Ils ont quand même appelé leurs membres à la grève, ce qui est somme toute.
Ouais, mais vers la fin. Vers la fin, juste avant qu'ils négocient.
Effectivement. Mais bon, c'est quand même un événement très important. C'est un des événements les plus importants là, de la décennie. L'autre événement important en 2005, c'est la montée de la droite. Il y avait eu d'abord l'affirmation d'une base de masse pour la droite populiste dans la région de Québec. On peut penser aux manifestations monstres pour sauver Choix Radio X à l'été 2004, au mouvement autour de l'enquête sur la prostitution juvénile, le Scorpion. Et en 2005, donc, cette base de masse-là est devenue une base électorale qui ces gens-là n'avaient jamais été mobilisés électoralement parlant, peut-être parce qu'il y avait une grosse coupure sur la question nationale, mais à partir de 2005, ils se sont mobilisés au niveau électoral et ils ont assuré coup sur coup l'élection de la mairesse André Boucher et des députés conservateurs et d'André Arthur. C'est des résultats électoraux de la droite dure qui étaient uniques à Québec à ce moment-là, qui ont porté un coup très dur à la gauche sociale et politique. Pour faire une histoire courte, c'est la débandade. Après ça, c'est la débandade. 2006, ça a été une année morose de repli, de désarroi pour la gauche. Il y a eu quelques initiatives contre la droite qui ont vu le jour. Sans que ça ait grand succès, on peut penser vous vous en souviendrez plus, mais quand même, à un moment donné, une campagne Québec, la reconquête, où est-ce que je voulais les stickers proposer de décapiter André Arthur, Stephen Harper et André Boucher.
Ouais, avec des ciseaux.
Ouais, avec des ciseaux, je sais pas
avec
trop.
Avec un pointillé, puis ouais.
C'était quand même pas pire. Mais ces gens-là, après ça, ont donné guerre à la guerre, ça passe. C'est quand même pas rien. Mais, donc, ce genre de truc-là, les seuls embellis au tableau en 2006, là, c'est le début de l'émission Féministe Libertaire ainsi Squattelle sur les ondes de Sequoia durant l'été. Ça, c'est quand même, ça a l'air de rien, mais c'est très marquant dans la mesure où des trucs féministes autonomes, il y en a pas beaucoup, et ça, c'était le premier depuis la coalition anarcho-féministe en 98. Puis avant ça, il fallait remonter à 95 pour tomber sur les réseaux de comité femmes dans les à du Capriarca, les réseaux de comité femmes dans le mouvement étudiant. Donc, c'est vraiment pas Il y a toujours des féministes qui sont impliqués dans les mouvements, mais des groupes féministes non mixtes, radicales, libertaires, il y en a pas beaucoup. Puis là, il y a un Squattel qui débute sur les ondes de Sequoia durant l'été 2006.
C'est parti comme un projet d'été.
Ouais, au début, c'était juste les filles. Ils voulaient prendre un temps d'arrêt pour faire de quoi de féministe, justement, parce que c'était toutes des femmes qui étaient impliquées dans un ensemble de mouvements sociaux et de luttes diverses. Puis là, ils disaient, on va se retrouver, on va faire un truc non mixte. Où est-ce qu'on va pouvoir triper ensemble, avoir du plaisir et aussi parler de féministe, faire un truc féministe libertaire. Et ça a continué, ça continue encore d'ailleurs sur les ondes de Sequoia à Québec. Et aussi finalement l'ouverture de la JT le 14 septembre 2006, après une très longue campagne quand même d'un collectif qui a gardé ça longtemps. Longtemps avant d'arriver à l'ouverture, mais le café-bar l'a jeté, le café-bar coop l'a jeté qui s'est ouvert le 14 septembre 2006. Donc voilà, c'est pas mal ça pour 2005-2006. On va à la musique pour revenir avec 2007. Youhou!
Vous
suivez la logique, hein?
Ouais, parce que souvent, 2005 a été meublé, mais 2006, c'est le contre-coup.
Ouais, 2006, c'est le contre-coup. Les gens ont fait le ce qu'ils avaient à faire, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose de plus.
Ils ont dormi à maison.
Ouais, ils ont dormi à maison, ils ont lâché leur plaie, puis ils se sont demandé si elle n'allait pas joindre le Québec solidaire.
Ouais. En attendant, on va aller écouter le 8-6 Crocs qui nous chante La Vieille France.
Thank you.
Rebonjour, toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Et on est dans notre récapitulatif de la décennie, les bons et les moins bons coups, les choses qui ont marqué finalement la gauche libertaire à Québec. Des choses aussi qui ont pu engendrer des traditions. Évidemment, comme on est jeune, 3 ans c'est une tradition. Fait que ben, le 8 mars... 2007, première édition de Sacoche et Mayoche, un cabaret féministe non mixte qui est organisé par Francis Coitel, dont on a parlé tout à l'heure, à l'AJT. Incroyable mais vrai, le caractère non mixte de l'événement a suscité une tempête dans un verre d'eau, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très mal à l'aise avec l'idée que l'AJT, il y a un événement non mixte, ou en fait, il y a un événement non mixte en soi. Aujourd'hui, la non-mixité, c'était pas nécessaire.
Mais il y a beaucoup de monde que c'était pas forcément, puis que ce soit à l'AJT, il disait, ben, il y en a qui ramenaient ça un caractère légal. Ils disaient, si jamais les masculins décident qu'ils portent plainte, il y a des femmes à Montréal qui ont été se battre contre la non-mixité dans les bars gays.
Ouais,
ils ont gagné en cours. Fait que là, c'était à ramener quand même.
Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient frus de pas pouvoir aller boire de la bière ce soir-là à la JT.
Ça fait de la chicane à tous les ans.
Ça fait de la chicane à tous les gens. C'est incroyable quand même. Un événement non-mix. Un événement festif.
Ouais, c'est même pas les masculins en priori qui font une marde.
Ben non, c'est des bons anarchistes gentils et certains hippies et tout. Enfin bref, c'est le début d'une tradition, c'est une réappropriation du 8 mars. Le 8 mars qui comme tout le monde le sait, c'est la journée internationale des femmes, qui à Québec était toujours le théâtre de manifestations de la coalition régionale des femmes contre la violence et la pauvreté. Souvent des manifestations sur la question de la violence, sur la question de la pauvreté, sur la question de la prostitution, mais manifestations auxquelles il y avait de moins en moins de jeunes féministes qui participaient parce qu'ils les trouvaient juste pas intéressantes. Puis ben ça se poursuit, puis il continue d'avoir du théâtre d'intervention le soir du 8 mars avec des activités populaires, mais les jeunes féministes radicales se sont appropriés le 8 mars puis ont organisé un cabaret féministe. Évidemment, c'est juste des artistes féminines qui se produisent. Sacoche et Mayoche. Donc, à l'AJT le 8 mars, puis ben, c'était la troisième année cette année. J'imagine que l'année prochaine, ça va être la quatrième. Et c'est génial que ce genre de choses-là existent. Le 26 mars, il y a une élection à Québec et c'est la montée de la droite qui continue. En fait, là, après une charrette de députés conservateurs, on est rendu avec une charrette de députés adéquistes. Et puis là, mais là, par contre, c'est plus juste Québec, hein. Ça va jusqu'à Trois-Rivières.
Oui,
en fait,
déborde.
Ça va presque jusqu'à Montréal.
Ça fait tache d'huile.
Ça fait tache d'huile, ouais, c'est ça. C'est la conquête qui continue. Et là, suite à ça, il y a vraiment pendant un temps, en 2007, il y a même des gens qui prédisaient que le PQ serait rayé de la map.
Oui, que l'ADQ
serait fini.
L'ADQ serait le prochain pouvoir.
Serait le prochain gouvernement et tout. Là, c'était l'opposition. C'était vraiment en gros. Évidemment, c'est une ballonne qui s'est dégonflée.
Heureusement.
Avec le temps, heureusement, effectivement, mais quand même, c'est toujours présent. Il y a toujours quelque chose, un feu qui couvre.
Ben oui, avec Super Mario, AVTL et compagnie.
Oui, effectivement. Puis ben c'est ça, on l'a vu, là, ça a eu des impacts assez importants au niveau social. Pas sûr que s'il n'y avait pas eu le 26 mars, puis avant ça, la montée de la droite et tout, s'il y aurait eu autant de fla-fla autour des accommodements raisonnables. Ça aussi, c'est un syndrome, la montée de la droite. Ça amène plein de choses.
Mais il y a aussi un paquet de médias qui n'avaient rien d'autre à dire.
Ben oui.
On dit, tiens, on a notre sujet juteux.
On a notre sujet dont on va parler. Mais quand même, il y a des gens dans ce contexte-là qui essayent de faire bouger des choses, puis d'agir sur la conjoncture. À Québec, il y avait en 2007 une intense campagne de propagande de l'armée autour de l'envoi du contingent de Valcartier en Afghanistan. Puis on voulait retourner l'opinion publique en faveur de l'occupation. Puis ben, bon, ça tombait bien, il y avait la montée de la droite, il y avait la droite populiste et tout. S'il y avait quelque part au Québec où ce qu'on pouvait réussir à faire de quoi, c'était dans la région de Québec.
Il y avait le momentum.
Il y avait le momentum. Et effectivement, l'opposition à la guerre dans la région de Québec est moins importante statistiquement parlant que dans les autres régions du Québec. Mais ça reste quand même majoritaire. Et là, dans ce contexte-là, on voulait faire changer complètement l'opinion à ce niveau-là. Puis bon, ben vu que c'est no boys qui allait aller en Afghanistan, là, bon, pour faire face à ça, il y a une coalition qui s'est organisée pour mobiliser les gens contre la guerre et manifester une opposition populaire. d'ailleurs au défilé de l'armée, parce qu'il faut s'en souvenir, l'armée voulait défiler dans les rues de Québec, a défilé dans les rues de Québec, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Guerre à la guerre qui était formée autour d'un noyau dur de libertaires. Justement, j'en parlais tantôt, là, les gens qui étaient à l'initiative de Québec, la Reconquête, qui ont décidé qu'eux, ils allaient s'opposer à ça, puis ils allaient pas faire une manif à l'autre bout, ils allaient aller manifester directement sur le trajet de l'armée canadienne. Parce que bon, coudonc, on n'est pas en Afghanistan, ici on peut toujours manifester. Et donc c'est ça, ils se sont organisés autour de ça. Et c'est le 22 juin 2007, après des, il y a eu au moins un mois où est-ce que tous les jours dans les journaux ça parlait soit de l'armée, soit des opposants, puis il allait y avoir du grabuge, puis là les radios poubelles parlaient de mobiliser les gens pour contre les contre-manifestants. Ouais. Puis bon, enfin bref, c'était l'enfer. Au final, la manifestation n'a pas été si impressionnante que ça. Là, on parle de quelques centaines de personnes, peut-être
vraiment efficace.
Mais elle a été très efficace. C'est un véritable tour de force dans ce contexte-là que cette manifestation-là se tienne, parce que c'est clair, là, même les libéraux étaient contre, là, même l'opinion, mettons, je sais pas moi, le Soleil ou était contre cette manifestation-là. C'était pas le moment, puis il y avait des moments pour s'opposer à la guerre et tout.
Oui, quand il y a personne qui regarde, là, vous pouvez vous opposer.
Ouais, c'est ça. Mais ça a vraiment été une intervention très réussie pour ce qui est de la question des médias puis de l'opinion publique. Ça l'a complètement bousillé le plan de communication de l'armée. Ah ouais. Et ça l'a polarisé l'opinion. Ça a pas été simple, mais ça a valu le coup.
C'était la totale. L'armée s'était sauvée de l'autre bord.
Oui, c'est vrai, il avait changé complètement l'armée.
Il avait décidé que, nous, on change de bord. Notre défilé, on le fait à l'envers.
C'était assez spécial. C'était le plus gros cortège rouge et noir dans la capitale depuis le sommet des Amériques. Donc ça, c'est vraiment, ça a été un bel exemple qu'une minorité de gens, une poignée de gens, en fait, très, très, très déterminés, qui mobilisent du monde. Tu vois, là, on parle, guerre à la guerre, là, ça n'a jamais été plus que 20, 25 personnes, là. Peut-être un peu plus, mais à peine, et ils ont réussi à mobiliser peut-être quoi, 500, 600 personnes, dont des gens de Montréal,
Lors de la manif,
une manifestation très colorée, très...
Il n'y avait pas grand monde qui était pouf. En tout cas, tu sais,
les gens étaient très motivés parce que ça faisait des jours que ça veut dire qu'elle allait se faire casser ailleurs par des militaires.
Quand ça s'est séparé, les gens qui avaient dit bon, on a fait notre marche, on s'en va au Corée du Ville, le rassemblement, puis il y avait ceux qui disent non, nous on y va carrément. Mm. Quasiment tout le monde avait fait on y va carrément.
Il y avait les verts et les oranges, je me souviens.
Puis ils avaient
réussi à unir les coalitions Québec pour la paix puis la coalition Guerre à la guerre ensemble.
Un Québec pour la paix avec une dizaine de personnes sont allées au Corée du Ouest. Puis le reste du monde a fait non, nous on est venu voir on est venu bloquer le défilé.
C'est ça. Non, c'était quelque chose. Mais c'était très réussi. Si on poursuit, le 1er mai, c'est le premier cabaret de la page noire pour le 1er mai. Maintenant, ça aussi, c'est une nouvelle tradition qui s'est mise en place. Alors, la page noire, c'est l'info qui que local de Québec et son cabaret le 1er mai, c'est l'occasion d'avoir de se réclamer, de récupérer l'aspect festif du 1er mai, de se payer du bon temps et de financer la librairie en question. Et maintenant, ça se tient tous les 1er mai. À l'été 2007, je pense pas que ça ait eu un impact majeur, grave et sérieux sur l'ensemble de la gauche de la capitale, mais c'est le début de voie de fait. Voie de fait, le blog et l'émission.
À l'automne.
Le blog a commencé à l'été 2007.
À l'été,
août, puis l'émission a commencé à la fin août, début septembre. C'est le résultat de notre réflexion sur la montée de la droite à Québec. On se disait, coudonc, il faudrait juste être plus présent, puis essayer de parler, en fait, de ce qui se passe et de la gauche sociale et tout. D'autres choses en 2007, ça on peut pas vraiment passer à côté. Je sais pas trop comment est-ce qu'on peut le traiter, mais c'est le 23 avril 2007 que débute le lockout au Journal de Québec. Ça a eu un impact majeur. Est-ce que c'est un impact sur la gauche? Je le sais pas.
Il y avait moins de textes anti-syndicalistes.
Ça a été un très drôle de conflit. Au lieu de piqueter les syndicats, on lance un quotidien gratuit. C'est vraiment un cas d'école. C'est moi, en tout cas, de mémoire.
Oui, mais ça marche pas dans les villes comme Montréal qui ont déjà des quotidiens.
Oui, non, vraiment pas.
C'est pour ça qu'ils ont pas.
À Québec, ils ont réussi le tour de force de gagner l'appui de la population.
Ouais.
Ouais. De la gauche à la droite, tout le monde était d'accord avec eux. Puis c'était comme les gens de syndicats
contre le champ. C'était encore drôle. Les radios poubelles étaient pas d'accord.
Il disait au moins, ils travaillent, c'est pas des paresseux qui vont faire du pitage.
C'est ça, il était pas d'accord, mais il était pas contre.
Mais ils étaient pas corse. Mais ils ont quand même, ils ont eu de l'appui de la DQ, ils ont eu l'appui de vraiment plein de monde. C'était assez surprenant. C'est vraiment du jamais vu. Ceci dit, par contre, beaucoup de gens, tu sais, dans les années 70, les syndicats médiatiques, les syndicats de journalistes, c'était des syndicats qui étaient quand même assez à gauche. Puis il y avait quelque chose, tu sais, un aura autour de l'idée de faire un journal sans patron. Puis heureusement ou malheureusement, en fait, on a vu avec le Média Matin Québec que les journalistes étaient très heureux de la forme de journaliste qu'ils faisaient, parce que sans patron, ils ont fait sensiblement le même journal, avec les chroniques dégueulasses de droite en moins.
Les crapauds.
Mais c'était vraiment... C'est-à-dire, on veut des nouvelles locales, on veut des grosses photos, on veut des articles. Puis bon, fait que je sais pas, mais c'est bien quand même des gens... Puis ça montre que le syndicalisme, ça peut marcher dans tous les milieux, même au Journal de Québec. En gros, je pense qu'on peut dire qu'ils ont gagné. En gros, là, au sortir de cette affaire-là, là, ils ont fait quelques concessions, mais après un an de conflit, ils sont quand même restés avec un plancher d'emploi.
Ils ont restreint les dommages, en fait.
Oui, ils ont limité les dommages.
C'était impossible de gagner à 100%.
Non, mais quand même, ils se sont retrouvés pas si pires. Et dernière affaire pour 2007, en deux temps, le 24 août 2007, c'est le décès d'André Boucher.
Ah oui, mort dans son sommeil.
Québec. Oui, et le 2 décembre 2007, c'était l'élection de Régis Labeaume.
Ouais, mort dans son sommeil. Ah non, c'est pas arrivé encore.
C'est important politiquement, quand même, mais par contre, il y a eu peu d'intervention autour de ces questions-là, là, venant de la gauche sociale et politique. Les gens étaient pas trop...
Ah non, la bombe est une tornade. C'est difficile de s'accrocher en quelque part puis d'essayer de critiquer, parce que le temps que t'argumentes, ben que tu bâtis ton argumentaire, il y a déjà 4 sujets plus loin, là. Puis là, tu te fais traiter de tu vis dans le passé, puis arrête, là, on avance, nous, puis... Hey, là, c'est pas faisable.
Cas, quand même, le 2 décembre 2007, c'est l'élection de Régis Labeaume, mais c'est probablement le début de quelque chose qui va se concrétiser en 2009.
Ça fait mal, ça.
C'est qu'est-ce qu'on s'en va écouter en musique?
On s'en va écouter Brixton Cats. On avait mis un mini bout de la pièce, Comptez sur moi, en fin d'émission, il y a 3 semaines. Je me suis dit, tiens, on va la mettre au complet, c'est tellement bon.
Samedi soir, dans notre bar, tout mon fou est au comptoir. Je me rocker, travailleur, ce que je porte dans mon cœur. Samedi soir, dans notre bar, tout mon tout est au comptoir. Je me rocker, travailleur, ce que je porte dans mon cœur. Ensemble, comme dans la reine, nous oublions toute notre peine. Nous enterrons toute notre tristesse, la réalité qui nous adresse. Chômeur ou travailleur, je les porte dans mon cœur. Pas trop cœur, chômeur ou travailleur, je les porte dans mon cœur. Pas trop cœur, chômeur ou travailleur, je les porte dans mon cœur. Pas trop cœur, chômeur ou travailleur, je les porte dans mon cœur. Comptez sur moi, mais sur mes frères. Qu'un seul coup contre l'un d'entre vous est un coup contre nous tous. Nous ne baissons jamais les yeux. Ensemble, plus fort que tout. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est que tu n'es pas comme un nous. Chômeur ou travailleur,
je les porte dans mon cœur.
Pas trop cœur, chômeur ou travailleur,
je les porte dans mon cœur.
Pas trop cœur, chômeur ou travailleur,
je les porte dans mon cœur.
Pas trop cœur, chômeur ou travailleur,
je les porte dans mon cœur.
Hey, de retour à CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez toujours Voix de Fait et notre revue de la décennie, en fait, des années 2000. On est rendu en 2008. En mars 2008, il y a le lancement du livre « Histoire de l'anarchisme au Québec ». Qui a lieu à la JT. En fait, ça n'a pas nécessairement eu un impact majeur, grave et sérieux, mais c'est quand même important pour la gauche libertaire parce que l'histoire de l'anarchisme québécois est complètement occultée. C'est pas un champ d'étude très important. Et puis nous, pour notre collectif, c'est quand même que c'est un de nos camarades à partir d'articles qui ont été publiés dans la revue Rupture. C'est un processus là qui s'est étalé sur un 5 ans à peu près de recherche là-dessus. Et ça l'a donné ce petit bouquin-là, Histoire de l'anarchisme au Québec, qui semble-t-il a fait quand même un tabac. Il va être traduit en allemand.
En allemand?
Oui.
Rien de moins.
Et donc c'est ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi la première fois de l'histoire récente ou de la décennie, disons, où il y a un bouquin qui sort sur l'anarchisme et qui est pas le fait d'un intellectuel patenté ou un spécialiste qui vient d'un militant. Bon, pas que les autres intellectuels patentés sont pas des militants aussi, mais ils sont quand même avec leur chapeau d'universitaire et leur chaire d'études, leurs cours, leurs
milliers d'heures de bourse et subventions.
L'autre, c'est dans les années 90, c'était Serge Roy qui avait sorti l'anthologie du culotté, selon plus pas un intellectuel patenté. Mais sinon, tu sais, c'est les Francis Dupidéry et autres, Normand Baillargeon, ça reste quand même des professeurs qui ont effectivement...
des professionnels du cerveau.
Ouais, c'est ça. Le 28 mars 2008, c'est le 90e anniversaire des émeutes de la conscription en Basse-Ville de Québec. C'était les émeutes de la conscription, c'était c'est une insurrection populaire, on pourrait dire ça, mais en fait, c'est plusieurs semaines d'émeutes à Pâques c'était le 90e anniversaire, c'est donc 1918. Et donc c'était des émeutes contre la conscription, c'était tout simplement à l'époque il y avait conscription, tous les jeunes hommes devaient, en âge de se battre, qui avaient pas d'exemption, devaient finalement aller au front en Europe.
Oui, les émeutes sont arrivées en fin 17, début 18.
Oui, c'est ça.
Puis ça s'explique parce que la conscription a été passée sur le tard.
Oui, très tard, puisqu'on n'avait pas eu besoin avant ça. Et en fait, ils ont envoyé sensiblement le même nombre de gens avant et après la conscription.
C'est à peine s'ils ont eu le temps, les conscrits ont à peine eu le temps de se rendre.
De se faire entraîner, puis de se rendre, de se faire descendre, puis de revenir dans des boîtes
de
carton.
Ils ont à peine eu le temps de se faire tirer dessus.
Oui, c'est ça. Mais quand même, pour le 90e anniversaire des émeutes de la conscription, on était à l'initiative, l'ANEFAC, en fait, à l'époque, était à l'initiative d'une manifestation de commémoration qui a regroupé pas mal tout ce qui bouge à gauche et à l'extrême gauche de Québec solidaire jusqu'à l'ANEFAC en passant par les maoïstes, les trotskistes, les communistes, tous les autres collectifs anarchistes et tout. Et on a organisé une grande marche dans la basse ville de Québec où il y a eu quand même 300 personnes pour dire que aujourd'hui comme hier, nous refusons vos guerres. Ce qui nous semblait important parce que 2008 c'était aussi l'année du 400e. C'est une année d'histoire.
Grande année militaire. Le retour du droit de cité.
Oui, le retour du droit de cité, oui, les manifestations.
Le retour des canonnades.
Et tout ça. Et c'était une année d'histoire, c'est l'histoire de Québec et tout. Puis nous, on se disait, il y a des choses dans l'histoire de Québec qu'on aimerait pouvoir ramener sur le devant de la scène. T'sais, c'est pas vrai que ça a tout été une histoire impérialiste et à la gloire. Quoique, à Québec, oui, plus qu'ailleurs, parce que ça a toujours été une ville de garnison. On n'a pas eu l'insurrection des patriotes, on n'a pas eu ce genre de choses-là, mais quand même des choses. Puis, il y avait quand même beaucoup de gens qui ont essayé de faire quelque chose autour de ça, mais même pendant un temps, je pense que ça passera pas à l'histoire, mais il y a eu l'autre 400e qui s'était regroupé avec l'idée de justement là, d'organiser d'autres types de festivités. Ça a été plutôt raté, mais il y a eu quand même quelques bons coups autour du 400e pour amener une perspective critique. On peut penser à la publication du livre Québec ville dépressionniste sur le 400e anniversaire de la ville et sur en fait tout l'imaginaire urbain et tout. Nous de notre côté, on avait organisé le 15 juin un changement de nom de rue. En fait, dans la même ordre d'idée que le 90e anniversaire de la conscription, on était allé rechercher, puis c'est ça, on en parlait, c'était dans le cadre des recherches là, sur l'histoire de l'anarchisme au Québec, on était allé retrouver en fait une grève pendant la construction du Parlement de Québec. Il y avait des communards qui étaient présents et ça avait fini avec des émeutes en Basse-Ville et dans le Vieux-Québec, en bas de la côte de la Potasse, il y a eu l'armée qui a tiré sur la population, sur les ouvriers en grève, et il y a un communard, il y a un Français qui s'est fait descendre, et on a décidé donc de changer le nom de la rue au coin de la rue où est-ce qu'il s'était fait descendre pour... mais je me souviens pas de son nom.
Ah merde!
Le communard en question.
Ah merde! Le nom est encore là en plus.
Oui.
Ça fait quoi, 2 ans?
Ben c'est en juin 2008.
Puis le nom est encore là. Mais
j'ai oublié d'écrire le nom du communard en question. C'est un peu niaiseux,
j'sais
mais
pas
bon.
Pourquoi dans ma tête ça sonne Baudelaire? Mais c'est pas.
Oui, non, c'est pas Baudelaire, c'est Baudoire. Édouard Baudoire. Édouard Baudoire, ça c'est un gars qui avait participé à la Commune de Paris, qui avait été déporté et à l'époque. Les communards, on leur avait laissé le choix entre soit d'être déportés en Nouvelle-Calédonie, soit d'aller au Canada. Parce que le gouvernement canadien avait besoin d'ouvriers qualifiés. Puis là, il y avait, je pense qu'il y a un bassin de 40 000 ouvriers qualifiés parisiens qui allaient être déportés. Mais qui a dit, ben nous, on est prêts à les accueillir au Canada. Il y en aurait 3 000 qui seraient venus au Québec.
Et le collant est encore là et intact.
Ouais, et Édouard Baudoire, c'est un de ces 3 000-là. Fait que plutôt que de se faire fusiller devant le mur des fédérés, il est mort à Québec, un drapeau rouge à la main, en train de mener une grève d'ouvriers de la construction qui est en train de construire le Parlement, parce qu'il y avait une crise économique à ce moment-là à Québec. Donc, ça, c'est un événement qui a eu... C'est un des bons coups pour dans le cadre du 400e. L'autre bon coup, c'est le 3 juillet, le droit de cité, qui est tombé à l'eau à cause de la pluie. Ça a été le chaos. Mais c'est le même résultat qu'en 2007 au niveau média. Le droit de cité, on se le rappelle, c'est une ville de garnison. Les autorités civiles de la ville peuvent donner à la garnison de la ville le droit d'entrer dans la ville. Et le droit de cité, c'est le droit pour un régiment, un bataillon, une unité militaire qui est basée proche d'une ville, le droit de marcher avec les armes dans la ville. Et donc, de ne pas finalement être un occupant ou quelque chose comme ça. Et ça, à Québec, le régiment de Valcartier, le Royal 22e, c'est ça le nom? Le Royal 22e a le droit de citer à Québec depuis toujours. Et là, ils ont ramené ça de l'avant. Le 3 juillet, c'est la journée, c'est la fête de Québec. Et traditionnellement, le 3 juillet avait des défilés militaires. Il n'y a plus de défilés militaires à Québec depuis 1944,
45. Sûrement tout de suite après la guerre. Là. En fait,
ça a arrêté.
Sûrement
en fait.
La deuxième guerre, pendant la guerre, ils ont dû arrêter d'en faire, puis c'est pas repris.
Là. C'est ça. Et là, ils ont décidé de relancer ça, le droit de citer des parades militaires. Puis comme c'était le 400e, ben c'était comme il y avait déguisé le monde. Il y avait les soldats qui défilaient en soldats, mais t'avais aussi toute la Légion, les vétérans des autres guerres, t'avais des figurants qui étaient déguisés selon tous les régiments des bataillons depuis la Nouvelle-France. Puis là, il y avait cette grande affaire-là. Puis évidemment, il y a eu une pluie du tonnerre, mais il y a eu aussi une contre-manifestation. Et effectivement, il n'y avait pas énormément de gens, sauf qu'au niveau des médias, c'est la même chose qu'en 2007.
C'était pas la place,
mais en fait, ça a tout polarisé et ça l'empêchait, en fait, cette affaire-là d'avoir lieu. T'sais, ils ont été obligés de défiler, protégés par la GRC, protégés par la SQ, protégés par l'anti-émeute.
Ça fait des beaux défilés.
Ben, c'est ça. T'sais, à un moment donné, je veux dire... Puis c'est comme ça qu'ils devraient défiler l'armée, protégés par la SQ,
ouais,
protégés
par l'anti-émeute. En même temps, ça montre la force de l'État.
ça, ils peuvent forcer le défilement partout, mais ils le feront pas comme si de rien n'était, avec y a des gens qui leur lancent des confettis. Là, on n'est plus en 1945. Donc, et sinon, autres événements en 2008, c'est par exemple le camp des 400 aussi qui profite du 400e. Les 400, c'était sans toit, sans le sou, sans droit, sans voix. C'est le Frappru qui avait organisé ça pour revendiquer plus de logements sociaux. C'est la plus grande manifestation pour le droit au logement de l'histoire récente du Québec. 1000 personnes quand même qui défilent dans les rues avec le Frappru. En novembre, novembre, ça, c'est, l'impact est mineur, mais pour nous, ça a été important. C'est la fondation de l'UCL. La fondation de l'Union communiste libertaire, qui est le nouveau nom de notre organisation. Ça n'a même pas lieu à Québec, en plus. C'est à Montréal. Mais...
Maudit.
Mais, pour nous, c'est important. Et probablement que l'histoire va s'en souvenir.
Ah ouais?
Oui. Quand on va faire... un récapitulatif.
Mais quand les archives nationales vont recevoir nos causes communes,
ils vont s'en souvenir, oui. Et finalement, dernière chose, en décembre 2008, ben, c'est la grève dans 13 supermarchés Maxi de l'Est de la province, dont 7 à Québec, je pense. Et puis ben là, c'est la réactivisation là, de notre stratégie de solidarité syndicale avec des articles dans Droit de parole, des entrevues à la radio.
On est allé sur les lignes.
On est allé sur les lignes, on a offert nos services, ils n'ont pas été acceptés. Mais bon...
Ils ont eu peur.
Non, ils n'ont pas eu peur. Je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de nous.
Non, mais c'est plus...
T'es quand même 800, nous autres, on était 8.
Ils ont eu peur.
Ils ont eu peur. Ouais, fait que c'est ça. Moi, c'est ce qui mettrait fin à l'année 2008.
Ouais, mais moi, je vais mettre fin à ton année 2008 avec du Tagada Jones.
Vous êtes toujours sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait. Hey, vous êtes toujours sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait. Puis ben là, on était au dernier bout de notre récapitulatif, de notre vue des années 2000, de la décennie. On arrive à l'année 2009. Puis ben là, évidemment, c'est toujours un peu plus touché là d'avoir du recul historique. C'est déjà pas évident avec 2008-2007, mais 2009, c'est proche pas mal.
On est serré.
On est serré un peu, tu sais. C'est dur de voir qu'est-ce qui va avoir réellement eu un impact, de quoi on va se souvenir avec le temps. Est-ce que c'est des choses qui nous ont marqué ou pas. Bon, toujours est-il que en janvier 2009, ça commence plein gaz parce que, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en janvier 2009, l'armée israélienne a envahi la bande de Gaza. Et c'est le massacre en fait en Palestine et partout dans le monde il y a une solidarité avec Gaza qui s'exprime et même à Québec il y avait 800 personnes à Québec le 10 janvier dans les rues par un froid sibérien.
Ah, il faisait pas chaud.
Ah non, il faisait pas chaud. Toi en plus tu filmais, c'est la première fois que tu filmais.
Que des souvenirs.
Eh oui, c'est notre première vidéo sur le blog. Donc, 800 personnes à Québec le 10 janvier pour affirmer la solidarité avec Gaza. C'était vraiment pas évident parce que la bande de Gaza est sous domination du Hamas. Le Hamas, c'est un mouvement islamiste qui est, tu sais, bon, t'as pas nécessairement envie de les soutenir en même temps. C'est pas une raison non plus pour raser puis.
C'est quand même. Ce qui est drôle, c'est que tous les parlementaires du monde dénoncent ce qui se passe en disant que il essaie de faire croire que le Hamas a pris le pouvoir comme
ils ont été élus, là.
Mais ils ont été élus. Fait qu'en tant que parlementaire, moi tout ce que j'ai à dire c'est tu fermes ta boîte.
T'es, voilà, t'es la démocratie encore moins... quand c'est comme nous. Mais quand c'est pas comme nous, si on n'est pas d'accord.
C'est ça.
Mais bon, non, il n'empêche que... puis d'ailleurs, le Hamas, on pourra en parler longtemps aussi, là, je veux dire, ça a été alimenté pour couper l'herbe sur le pied de l'OLP, parce que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, oh, c'était des marxistes, c'était des guerrieros, le Hamas, les islamistes faisaient des soupes populaires, puis là, ben là, ils jouaient les islamistes contre les communistes en se disant que peut-être ils sont pas nés que les islamistes. Bon, écoute, à un moment donné, on joue avec le feu, on joue avec le feu. Sauf que, reste que, il y avait un blocus sur Gaza et l'invasion de Gaza, et partout dans le monde, les gens se sont mobilisés. C'était quand même assez important. Et c'est des grosses manifestations, là. On a eu aussi, il y avait eu aussi en 2008 ou en 2007, je me souviens plus, durant l'été, une mobilisation pour le Liban, quand l'armée israélienne avait foncé tout droit dans le Liban pour aller reprendre des soldats qui avaient été enlevés par le Hezbollah. Et ça va être important, mais pas aussi important que ça. 800 personnes à Québec le 10 janvier, c'est quelque chose. Ça continue pendant un certain temps. C'est sûr que, bon, face aux 8, 10, 20 000 personnes qu'il y a eu contre la guerre en Irak, c'est pas la même chose, mais c'est quand même très important. Je pense que ça, on risque de s'en souvenir. Et le réflexe internationaliste à Québec est quand même présent malgré la montée de la droite, malgré tout ça. Et il y a quelque chose aussi qui a été acquis là, dans la dernière décennie, c'est la pénétration dans les communautés maghrébines, dans les communautés musulmanes, où il y a effectivement des éléments de gauche qui se mobilisent pour ces affaires-là, puis qui font le pont avec des activistes pacifistes dans ces moments-là. Et ça, c'est important, parce que c'est sûr que sans ce moment-là, on aurait été plus proche de 3, 4, 5 que de 800.
Ah oui.
2009, ben, c'est la crise économique aussi. on a de la difficulté à le visualiser, sauf que la crise économique a eu des impacts assez majeurs, même si dans la région de Québec ça n'a pas été aussi fort qu'ailleurs. Dans le Soleil, mercredi matin, on disait que l'année 2009 a été faste en conflit de travail, trois fois plus. En fait, il faut montrer quatre ans auparavant pour trouver autant de nombre d'heures de travail perdu au Québec en raison de conflits. Puis ça, on n'a pas l'impression que 2009, ça a été une année syndicale ou ça a été une année de bataille syndicale. Et pourtant, statistiquement parlant, c'est le cas. Puis ben ça, c'est directement lié à la crise économique. D'un côté, les demandes de concessions des patrons. De l'autre côté aussi, des batailles assez dures pour maintenir le pouvoir d'achat, voire l'augmenter dans certains cas. Et nous, ben c'est sûr que la région de Québec, ça nous est passé un peu au-dessus de la tête dans la mesure où l'industrie manufacturière, c'est pas Québec calé.
Mais pas beaucoup.
Pas beaucoup. Il y en a, mais pas énormément.
Cro était parti en Chine avant la crise.
Oui, c'est ça. Et pour l'instant, en tout cas, Papy White Birch, ils ont l'air d'être partis pour rester, je pense.
Ouais. On verra.
Ça arrive sud aussi, IPL et compagnie. Mais quand même, la crise économique, au moins au niveau de l'univers mental, ça a été assez important. Il faudra voir aussi l'impact que ça va avoir sur les fonds de retraite et sur les retraites des gens. Là, ça, c'est une autre histoire.
Ça a quand même pris moins de place dans les médias que la grippe A.
Ah, ben oui. Et que Régis Labeaume. Mais ça, c'est une autre histoire. Le 1er mai 2009, à Québec, il y avait un carnaval de crise. C'est le REPAC, Oui, c'est le REPAC, le regroupement des groupes communautaires. C'était une première vraie manif du 1er mai dans la capitale depuis une éternité, avec entre 200 et 300 manifestants. En juillet, il y a eu la tentative de syndicalisation d'un Starbucks en plein cœur de l'été. Ça a eu un impact médiatique assuré. Par contre, ça a pas marché pour l'instant. On verra ce que ça va donner. Et finalement, on va terminer notre revue de la décennie là-dessus. La campagne électorale municipale, le tsunami Labeaume.
Et voilà. Alors,
voilà, c'est là-dessus que se termine 2009 et que se termine aussi cet été édition de Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec.
On aurait tout essayé.
Sur ce, bonne semaine et c'est ça.
À la prochaine.